Vous êtes sur RTL.
Les Bleus, direction maintenant les quais de Seine, et on va regarder si les Parisiens respectent bien les règles.
Vous aurez également vos trois infos pour briller au dîner. Un moment de bonheur dans l'instant trop mignon avec la belle histoire de la semaine. Le palmarès de vos appels au 32-10 dans le prodomètre. Et comme tous les vendredis, un cadeau avec ce soir 150€ de bon d'achat pour vous offrir les chaussures de votre choix. Parce que dans cette émission, on veut que vous soyez bien dans vos baskets.
Oh, ah, c'est joli, c'est beau, ça.
Non,
c'est
gentil. Franchement, c'est bien.
Pas du tout facile.
Non. Hein, ouais, mais bon, allez, là, quoi. Mmh. On défait le monde, épisode 36. Les déconfinés. Parle enfin aux déconfinés. C'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Bon, il ne fait pas seulement des jeux de mots du tonnerre, il surfe sur l'info le matin, sur toute l'actualité de la semaine, le vendredi soir, dans On défait le monde, il est du tonnerre.
Merci.
C'est à vous, Cyprien.
Eh bien, en cette première semaine de déconfinement, on a reçu une vraie leçon de positive attitude, d'optimisme, oui. Il y en a qui arrivent vraiment à voir tout le temps le bon côté des choses. Exemple, avec les vacances qui doivent se passer en France, vous le savez, signé du maire de Dunkerque au micro de Frank Hanson, écoutez bien.
Il y a des éléments positifs de relocalisation de voyages des Lillois, ou des Dunkerquois d'ailleurs, qui ont prévu d'aller au Maroc, en Tunisie, en Thaïlande, ou je ne sais où, se voient annuler leur voyage, retrouvent un budget vacances. Pourquoi ne pas leur proposer Malo-les-Mains, Gravelines, Bredune comme destination?
Mais oui, le gars qui devait partir à Phuket, tu lui proposes Gravelines, il sera ravi. Nickel. Bon, après entre nous, j'aime beaucoup Gravelines. Mais bon, c'est pas le même climat, quoi. Positive attitude, donc, et leçon d'obstacle. Obstination aussi cette semaine, grâce à Jean-Michel Blanquer. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, le ministre de l'Éducation s'était rendu dans une école avec le président. Ils étaient tous les deux masqués. Et face à une classe, il avait demandé aux enfants...
Est-ce que vous savez qui je suis, moi?
Non.
Et non. Alors il se dit, ah, mais ça c'est à cause du masque, évidemment.
C'est normal, j'ai un masque, mais si j'enlève le masque...
Non, toujours pas, même sans le masque, ça marche pas. Bon, alors, suite à ce formidable râteau, beaucoup auraient arrêté le « vous savez qui je suis ?» Eh ben, pas Jean-Michel Blanquer, qui cette semaine est retourné dans une école visiter une classe, et n'écoutant que son courage, ben...
Moi, vous savez qui je suis, alors ?
Non, toujours pas. On lui a dit d'arrêter l'obstination, mais voilà, c'est une qualité. Ouais, c'est dur, mais bon. Jean-Mi, qui sans doute perturbé, a du coup eu une petite absence. Vous savez, il avait bien insisté pour dire que le confinement, c'était pas les vacances. Résultat, face aux enfants...
Est-ce que vous avez lu pendant les vacances? Enfin, c'est pas les vacances, c'est pendant le confinement.
Ouais, évidemment, normal, il fallait que ça lui arrive. Sinon, petite leçon de français aussi cette semaine à l'Assemblée nationale, grâce au député Majid El Guerab, qui va nous apprendre à parler le jeûne.
Les mesures énoncées à cet alinéa sont sans lien direct avec l'épidémie. Comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, c'est hors sujet.
Ah ouais.
Hors-suge.
Non, ça. C'est plutôt quand vous étiez jeune, non, Vincent, qu'on disait hors-suge, non? Parce que là, moi, ça ne me parle pas. Bref. Non. Enfin, cette semaine.
Vous n'êtes pas jeune non plus, hein.
Oui, c'est vrai. Je suis plus jeune. Cette semaine, vous non plus. On a peut-être compris pourquoi la France avait un peu patiné au démarrage sur la façon de faire face à l'épidémie de coronavirus. Oui, dimanche, sur BFM TV, la porte-parole du gouvernement était invitée et il s'est passé ça.
Si vous vous basez sur le consensus scientifique et sur l'OMS que vous citiez à l'instant, l'OMS, au début, elle n'a pas dit confiner, elle a dit tester.
Je me permets d'apporter une petite correction. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive, quelque part de mémoire au mois d'avril, et nous avons progressivement augmenté notre capacité de test.
Ok, donc elle corrige et explique que l'OMS a dit qu'il fallait tester de manière massive, je cite... Quelque part de mémoire au mois d'avril.
Quelque
soit.
Part.
Oui, donc on va quand même jeter un œil sur le site de l'OMS, ça ne mange pas de pain. Mmh. Et là, vidéo du 16 mars. Pas quelque part au mois d'avril, mais le 16 mars. Vous vous souvenez? C'est le jour où on a commencé le confinement. Et il dit quoi le 16 mars, monsieur de l'OMS?
You must test. We have a simple message for all countries. Test, test. Test.
Et test, en français, ça veut dire test, il n'y a pas de piège. Mais bon, c'est sûr que si à chaque fois on a un mois de retard sur l'OMS, qui est déjà en retard sur la maladie, on n'est pas prêt d'en finir. Et vivons la semaine prochaine quand même.
Et merci Cyprien.
RTL Soir, on défait le monde.
Bon alors, après ce bon surf, vous avez la première grosse info de la soirée. Vous allez nous parler... bisous.
Ouais, bisous, bises, câlins, serrage de main, hug à l'américaine, vous savez, c'est quand on se prend dans les bras, bref, tous ces gestes de bienséance du monde d'avant qu'on n'est pas prêt de retrouver pour l'instant. Alors, on commence un peu à s'habituer à mettre une distance entre nous, certains et certaines sont même ravis de mettre fin à cette coutume de la bise à tout va, mais Brice, cette semaine, on a voulu aller un peu plus loin, est-ce que ces nouvelles habitudes, par exemple, peuvent perdurer au-delà de la pandémie de coronavirus ?
Alors, il y a un argument qui laisse penser que oui, ces pratiques pourraient durer, c'est que la poignée de main, la bise, l'accolade, ce sont aujourd'hui des vecteurs de contamination du Covid-19, évidemment, mais c'est aussi le cas le reste du temps pour la grippe saisonnière ou la gastro-entérite. Alors, maintenant que ces gestes ont été appris, à qui même, eh ben ils deviendront peut-être la norme dans le futur. Alors pour savoir à quoi ressemblera notre vie sans contact, nous avons posé la question à Fabienne Martin-Juchat. Elle est anthropologue à l'université de Grenoble et elle est spécialiste de la communication affective. Et elle nous donne une piste des modèles de société possibles, notamment celle des pays nordiques.
Il y a des civilisations qui sont beaucoup plus dans la proximité physique que d'autres. Les pays nordiques, c'est des pays où les gens, la socialité, elle est dans l'espace familial. Il y a très peu de rencontres dans l'espace public et c'est dans l'espace privé qu'on se permet une certaine proximité. Toutes les cultures dites entre guillemets latines, l'Espagne ou même l'Italie, l'Amérique du Sud, où la proximité physique, elle est vraiment visible. C'est possible que ces cultures-là se transforment quand on ira dans des espaces publics au travail où il faudra avoir un autocontrôle très fort. Et puis par contre, le jeu corporel se manifestera ailleurs.
Ailleurs, c'est-à-dire à la maison et non plus dans l'espace public.
Mais alors du coup, d'un point de vue affectif, c'est triste quand même si on s'éloigne les uns des autres, non ?
Eh bien, pas forcément. En fait, c'est une impression qui est due au fait que nous associons le contact et la proximité. Mais il y a des sociétés, par exemple des sociétés asiatiques, mais pas uniquement, où on peut dissocier ces deux idées.
C'est pas parce qu'en apparence, il y a de la distance physique entre les gens qu'il n'y a pas des codes de proximité. C'est-à-dire la question d'être en relation sensible avec autrui, c'est pas nécessairement en fait le papouiller et d'être totalement collé à lui. Au contraire, dans toutes les sociétés où justement le contact physique direct est interdit, pour des questions à la fois de relations homme-femme, mais également pour des questions aussi sanitaires, eh bien ces civilisations ont mis en place des jeux. Nous sommes des corps en mouvement et ces corps en mouvement peuvent se rencontrer sans nécessairement avoir besoin de se toucher. C'est pas parce qu'on est loin du corps qu'on est loin du cœur.
Et puis il y a des exemples, hein. Elle m'a parlé du sport, de la danse, où en effet même sans se toucher, on peut ressentir une proximité, un échange avec un partenaire, un ami, un coéquipier. Voilà peut-être ces codes qu'il faudra réinventer.
Ouais, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas ça c'est pour nos amis si j'ai bien compris, mais cette pandémie elle change aussi le rapport à l'autre en général, je veux dire, même si c'est un inconnu.
Oui, on a tous constaté dans les rues les gens qui s'écartent brusquement, les regards suspicieux, parce qu'évidemment désormais l'inconnu, le passant dans la rue que l'on croise, eh bien potentiellement il peut être un risque, un danger, puisqu'il peut me contaminer. Donc l'évaluation de cette distance, ça porte un nom, ça s'appelle la proxémie. C'est la juste distance à autrui dans une société. Et le problème c'est que chacun l'interprète un peu à sa façon et ça peut être une source de tension.
Dès la naissance, on apprend à la fois la relation de proximité et la relation de distance. C'est une éducation. On n'a pas besoin de se poser la question quand on est à côté de quelqu'un, quelle va être la juste distance par rapport à autrui. Ce qui se passe actuellement, c'est que d'imposer un mètre de distance perturbe quelque chose qu'on a acquis depuis la naissance et qu'on a complètement oublié. L'évaluation de la bonne distance étant différente en fonction des gens, automatiquement, il y a du jugement et du malentendu, de l'agressivité. Quand quelqu'un se rapproche trop de nous, on se sent agressé. Là, actuellement, le potentiel d'agression est multiplié par 10.
Et alors attention, hein, même si vous commettez une erreur, ça peut être de bonne foi, puisque cette appréciation de la distance, on l'entendait, c'est le fruit d'une éducation, et tout le monde ne met pas le curseur au même endroit.
La question même du 1 mètre est totalement subjective. Il ne faut pas croire que chacun a la capacité comme ça, d'une manière totalement objective et rationnelle, de dire « allez là, je suis à 1 mètre de distance ». Si vous prenez des cultures en fait du Sud, ils auront l'impression d'être à 1 mètre, mais en fait, ils seront à 50 cm. Une personne pourra vraiment, d'une manière très honnête, avoir l'impression d'être à 1 mètre, mais en fait, il sera à 50 cm.
Le conseil, en fait, dans cette période de tâtonnement, c'est d'utiliser encore plus que d'habitude les règles de politesse, puisque ces règles, elles ont été créées dans nos sociétés justement pour désamorcer les tensions issues de la présence d'inconnus dans notre espace intime. Donc bonjour, merci, pardon. Cela permet de montrer que vous faites attention aux autres, même si parfois la distance n'est pas celle que votre voisin aurait souhaité. Ça apaise et ça désamorce éventuellement les situations de tension en cette période.
Voilà, c'est le nouveau monde qu'on nous promet.
Ça
voilà.
Vous plaît, hein ?
Ah, bah, j'adore ça, moi. Franchement, j'en rêve tous les jours. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les Parisiens qui veulent déjà profiter du week-end observent ces règles, d'après vous ?
Ah ben, on va voir Laurent Tessier sur la moto. Laurent,
vous êtes aux Invalides, Laurent ?
Voilà, nous venons d'arriver sur l'esplanade des Invalides. Autour de moi, les pelouses et plusieurs groupes de Parisiens et Parisiennes assises les uns à côté des autres. Alors je peux vous dire, pour le moment, on vient tout juste d'arriver et la distanciation sociale entre les groupes n'est absolument pas respectée. Pas d'un mètre respecté entre les Parisiens et les Parisiennes. Des groupes de 4, 5, 6 personnes. Donc on est bien dans la légalité. Pour le moment, devant nous, aucun rassemblement de plus de 10 personnes. Donc voilà, c'est un bon point positif, mais pas de distanciation sociale. Et concernant les gestes barrières, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être ça. On voit les Parisiens et les Parisiennes se mélanger, prendre le même
verre. C'est-à-dire se mélanger,
les mêmes gâteaux apéritifs.
Partager les gâteaux apéritifs, bon, ça va.
Ah non, mais si on met la main dans le même pot de gâteau apéritif, c'est une cata. Hein.
J'entends, mais se mélanger, j'avais peur.
Ah oui, non.
Vous voyez où on en est. Allez, on va marquer une courte pause et puis on vous retrouve. On vous retrouve après, Laurent, sur la moto. A tout de suite, on va continuer de le défaire, ce monde, avec Cyprien.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Bah non, pas plus, c'est normal, avec un mètre de distance. Première info pour briller au dîner, alors il y en aura 3 ce soir. Et pour élire la meilleure info, Grégory Garadoni à la réalisation, c'est vous qui êtes le jury, vous êtes notre reine d'un soir, Greg.
Notre roi ?
Oui, voilà, notre roi, évidemment. Et c'est Cyprien qui ouvre le bal.
Et vous le savez, c'est la bonne nouvelle de la semaine, on devrait avoir le droit de partir en vacances cet été, mais il faudra rester en France. Du coup, je me suis demandé quels étaient les lieux les plus visités de France, ça vous donnera peut-être des idées. Et là, alors que je pensais benoîtement tomber sur la Tour Eiffel, eh bien pas du tout. Non, le lieu le plus visité de France, c'est Disneyland Paris. Ouais. 15 millions de visiteurs chaque année pour aller voir Mickey. Bon, alors pour cet été, c'est même pas certain que ce soit rouvert. En deux, normalement, c'est la cathédrale Notre-Dame, mais bon, là aussi, pour cet été, c'est râpé. Mmh. En trois,
le musée du Louvre. C'est le
classement des lieux fermés.
On peut rien faire. Le musée du Louvre, c'est
bah, c'est fermé.
En cinq, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, a priori.
Mais, c'est sympa.
Et c'est là où j'ai de bonnes nouvelles. Ouais. C'est qu'en fait, hors Paris, parce que la France, c'est pas que Paris. Et ben, dans l'ordre, on a le Puy du Fou qui va rouvrir.
C'est ouvert?
Non, mais
c'est
pas ouvert. À égalité. Et ça, c'est ouvert, je crois, avec le cimetière américain d'Omaha Beach à Colville-sur-Mer, dans ce formidable département du Calvados. 2,1 millions de visiteurs. Et sinon, vous avez la cité médiévale de Carcassonne. Là, par contre, on peut y aller, c'est sûr. Et en plus, c'est hyper beau.
Alors, je croyais qu'il y avait le Mont-Saint-Michel, moi.
Ça, ben, ça arrive juste derrière.
Et voilà. Et le Mont-Saint-Michel aussi, on
c'est
peut.
Ah oui, c'est ouvert.
On peut y retourner, mais alors, c'est très réglementé.
Pardon, mais.
Mais on peut briller au dîner être grotesque,
mais
vous
non,
savez.
Au contraire.
Oui, non, mais c'est vrai. Alors, c'est ça, c'est fermé. Donc, ça, c'est fermé. Là, n'y va pas parce que c'est fermé, mais il y a du monde normalement. Mais là, c'est fermé. Non, c'est pas possible.
On défait le monde.
Allez, la deuxième grosse info ce soir, Cyprien, elle est consacrée au cinéma.
Eh ouais, normalement, à l'heure qu'il est, on devrait être en train de parler du.
Qui sont fermés, hein, les cinémas.
Bah oui, bah justement, c'est pour ça qu'on en parle, là, pour le coup.
Habituellement, il y a du monde, hein, mais là, c'est fermé.
Non, mais là, on devrait être en train de parler du dernier film ouzbek qui a fait scandale à Cannes ce matin, par exemple, voyez. Ou même du film qu'on a prévu d'aller voir samedi soir. Mais voilà, depuis plus de 2 mois maintenant, écran noir, tournage, sortie, rien. Céline, cinéphile parmi les cinéphiles, quand est-ce qu'on pourra se refaire un ciné?
Bah pour l'instant, j'en sais rien, Cyprien. Okay. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure le ministre de la Culture, Franck Riester, en parler sur RTL. Il le disait lui-même, c'est trop tôt pour donner une date. Les professionnels espèrent quand même une décision du Premier ministre le 2 juin pour une réouverture peut-être début juillet. Et en attendant, ils travaillent évidemment, eux aussi, sur un protocole sanitaire pour rendre les salles les plus sûres possibles. Jocelyn Bouissier est le directeur général du groupe CGR.
Aujourd'hui, on propose des choses, peut-être un fauteuil sur deux, des cheminements avec une salle, une entrée et une sortie unique, des gels hydroalcooliques dans toutes les salles, ça c'est sûr, et des masques pour tout le personnel. Hein. Il y aura de la confiserie avec du pop-corn qui sera déjà pré-rempli. Il n'y aura plus de manipulation. Vous voyez, ce sont tous ces travaux-là qui nous prennent du temps aujourd'hui pour essayer d'ouvrir dans les meilleures conditions possibles.
Et dans ces conditions...
Le popcorn, il est pré-rempli.
Mais il y a bien quelqu'un qui l'a rempli, quand même.
C'est beaucoup moins bon. Enfin bon,
non, mais en plus, il y a bien quelqu'un qui a rempli le popcorn.
Oui, forcément. Bon, c'est pas grave, c'est un détail pour le popcorn.
Je pense, ce qu'il est moins, en revanche, c'est la capacité des salles. Un fauteuil sur deux, c'est l'exemple qu'il donnait. Et avec ces dispositifs-là, la réouverture, elle ne sera pas forcément rentable tout de suite. C'est ce qu'il concède, Jocelyn Bouissy. Ce sera progressif, avec encore certainement du chômage partiel dans un premier temps. Et puis la question, c'est aussi celle de l'offre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les cinémas plaident pour une réouverture nationale et surtout pas uniquement que dans les zones vertes.
On ne peut pas avoir un cinéma à deux vitesses. Vous savez, les zones vertes, les zones rouges. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, l'Île-de-France est touchée, il n'y a qu'un distributeur qui sortira un film si l'Île-de-France ne réouvre pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça soit une ouverture commune en France. Et quitte à attendre un peu, le plus dangereux pour nous serait de réouvrir trop vite et mal.
Et donc, vous l'avez compris, l'autre question pour ces distributeurs, c'est évidemment les films qui vont arriver.
Mmh. Mais alors, avec tous ces films-là qui ne sont pas sortis pendant le confinement, là, ça va se bousculer quand ça va rouvrir.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient dû sortir pendant cette période. Imaginez, d'habitude, c'est une quinzaine de films qui sortent chaque semaine en France. Donc là, en théorie, on aurait un stock d'une centaine de films d'avance qui attendent. La réalité, c'est qu'une partie d'entre eux sont allés directement sur les plateformes de VOD, de vidéo à la demande. Et que pour éviter les embouteillages, les autres ont souvent été repoussés à l'automne. Kaamelott, par exemple, d'Alexandre Astier, attendu fin juillet, sortira finalement en novembre. Comme Mourir peut attendre, le dernier James Bond qui devait sortir lui en avril en plein confinement, novembre aussi donc, et certains distributeurs comme Sony sont même plus patients encore que James Bond puisqu'ils préfèrent eux repousser leur sortie à 2021.
Et alors c'est à ce moment-là qu'il y aura l'embouteillage.
Non, ça c'est pas sûr non plus.
J'y tiens à cet embouteillage.
Mais oui, je vois, mais on n'est pas du tout certain de l'avoir ce bouchon parce que tout est figé en ce moment. Les tournages sont donc eux aussi à l'arrêt. Alors certains espèrent pouvoir reprendre bientôt. Fabien Antoniente par exemple, il est actuellement en repérage pour son futur film Les Bijoux de la Kardashian. Il espère commencer le tournage au mois d'août. Le pitch, on peut le donner, il est assez simple. Hein. C'est un trio incarné par Gérard Lanvin, Didier Bourdon et Gérard Jugnot. Trois hommes un peu fauchés qui décident d'aller braquer les bijoux de Kim Kardashian. Pas de scène d'amour ou de foule prévue, c'est pas anecdotique. C'est des scènes qui sont impossibles à tourner en ce moment. Mmh. Il n'a pas eu besoin de tout réécrire, mais il a dû faire quelques changements quand même.
À part certaines scènes de Fashion Week, où il y a Kim Kardashian entourée de beautiful people, et là, on va essayer d'être inventif, d'avoir des people qui portent des masques aux couleurs des grandes marques, et que eux aussi jouent le jeu des gestes barrières. Donc on va faire une mise en abîme de ce qu'on tourne, voilà.
People masqué donc chez Antoniente. Danny Boone, lui, annonçait ce matin, toujours sur RTL, qu'il est en train d'écrire un film sur la vie dans un immeuble confiné. Le coronavirus va donc faire parler de lui encore un bon moment dans le monde du cinéma et pas uniquement, on l'a compris, sur les écrans. Enfin, Cyprien, si vous êtes trop en manque, le drive-in peut peut-être vous sauver. On l'a appris, la place des Quinconces au cœur de Bordeaux va se transformer dès demain en cinéma à ciel ouvert. C'est la première étape du Drive-in Festival. Un festival itinérant. Et ce sont ensuite les automobilistes de Marseille ou des Hauts-de-France qui pourront en profiter.
C'est sympa ça, les drive-in, comme dans les années 50 aux États-Unis.
On n'a pas connu ça.
Non. Mais dans une Clio, ça a moins de classe que dans une Ford Mustang, quand même.
C'est
moins
stylé,
enfin bon, c'est sympa quand même. Puis on fait ce qu'on peut.
À suivre dans On défait le monde.
Une info pour briller au dîner. Vous découvrirez qui est le loser de la semaine et le billet retour de Brice du Génie. À tout de suite, mais gardez vos distances.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Ouais, alors avant de retrouver Lolo sur sa moto dans Paris, donc deuxième info pour briller au dîner, je vous rappelle que c'est Greg Caranoni derrière la vie dans la régie qui préside le jury, qui choisira la meilleure. Et donc Céline, vous nous emmenez à la plage.
Oui, parce que cette semaine, vous le savez, la mode, ce sont les plages dynamiques. Celles qui ont commencé à rouvrir ne sont accessibles pour l'instant que sous cette condition, être dynamique, soit en nage, soit en marche, soit en cours. En tout cas, on fait quelque chose. Du coup, je me suis demandé quelle était la meilleure plage pour une activité dynamique, la plus longue, par exemple pour un footing. Pour ce qui est des plages urbaines, c'est à la Baule, en Loire-Atlantique, 8 km de sable, revendiqué comme étant la plus grande plage urbaine d'Europe. Mais il y a plus grand, moins urbain aussi, et c'est ce banc de sable sur la Côte d'Argent, c'est dans le sud-ouest, entre l'estuaire de la Gironde et celui d'Adour. 106 km de sable fin, bordé par l'océan Atlantique, la forêt des Landes de l'autre côté, ça fait rêver. Le problème, c'est qu'avec 106 km, si vous faites tout, vous êtes au-delà de la distance autorisée.
On peut pas aller d'un bout à l'autre. Non.
En footing, il y a de la marche quand même, pardon, mais...
Certes.
Ouais, c'est vrai que 106 km, il faut quand même se les faire.
Mais c'est une des plus grandes plages du monde, non? Mm-hmm. Enfin, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais
bon, Lolo est sur sa moto, je vous préviens.
Ah oui,
il nous attend.
Laurent Tessier.
Moto RTL.
Non, j'ai quitté la moto RTL pour me poser sur la pelouse des Invalides avec un groupe de 6 personnes. On retrouve Laura. Deux amis se sont retrouvés car ils ne s'étaient pas vus depuis 2 mois, depuis le début du confinement. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Alors la distanciation sociale, vous réussissez à la respecter ?
Ben, on s'est bien organisé, chacun a ramené son plaid, son pique-nique et quelques trucs à boire et on respecte la distanciation sociale, effectivement.
J'ai pas l'impression que vous soyez pourtant à 1 mètre tous les uns des autres.
Alors effectivement, on est en couple, donc les couples sont les uns à côté des autres et avec les autres, on a la distanciation.
C'est pas une excuse pour autant.
Effectivement, mais bon, on vit ensemble, donc de toute façon, on partage les mêmes microbes.
Voilà. Alors, sachez-le quand même, sur les pelouses des Invalides, on a toujours ces petits groupes de 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et à l'instant, une voiture de police vient d'arriver. 3 policiers sont sortis du véhicule pour rappeler à tous les groupes présents sur la pelouse des Invalides les gestes barrières, la distanciation sociale et ils sont en train d'arriver vers nous dans quelques secondes.
Bon, ne tombez pas dans la délation quand même, Laurent. Ouais. Hein, c'est bien l'information, mais pas la délation.
Merci, merci Laurent. Et on remercie également Olivier Masson, qui est le pilote de la moto RTL.
RTL. Le loser de la semaine.
Ben voilà, j'ai même pas besoin de l'annoncer, c'est déjà fait.
Ben oui, c'est le moment de l'émission où ceux qui ont fauté commencent à trembler. C'est maintenant que Céline va nous dévoiler qui est le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, vous nous montrez une nouvelle fois que vous n'avez peur de rien, ni de personne, puisque vous vous attaquez à... Attention. À la chasse.
Ça me rappelle mes nuits d'insomnie.
Oui, c'est la chasse.
Je m'attaque surtout au président des chasseurs, Willy Schren, qui s'alarme de la concurrence déloyale des chats. Les chats chasseurs qui, selon lui, sont aujourd'hui trop nombreux et menacent la biodiversité. Écoutez, c'était lors d'un direct vidéo sur le site bien nommé chasson.com.
C'est vraiment dans ses gènes. Le chat, il chasse tout le temps. Alors, c'est bien, il ramène une souris de temps en temps, des fois un rat. Mais entre-temps, il a ramené un petit lièvre, 3 petits perdreaux, une petite poule d'eau. Enfin, ça n'arrête jamais, quoi. Et ça, c'est le problème du chat. Le chat tue mais bien, bien plus d'animaux que les chasseurs. C'est même pas à comparer. Il y a trop de chats.
Et Willy Schren a donc proposé.
C'est génial. Il a fondu un câble, non ?
Non, mais tout ça,
la
est vrai,
concurrence déloyale des chats.
Ouais, c'est formidable.
Mais c'est un vrai problème qu'il pose et il a donc proposé aussi une solution.
Effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. Mais je le sens pas. On voit bien. On est attaqué de toutes parts, on reproche la chasse, on reproche la corrida, on reproche les combats de coqs, on reproche plein de choses. Alors maintenant, si on piège les chats, je ne dis pas à quoi ça va ressembler.
Remarque, il est réaliste. Il sent que ça ne va pas passer comme ça, pas piéger.
Oui, il se demandait à quoi ça va ressembler. Ça ressemblait à ça, en fait, les réactions. Pas content les chats, pas content non plus les amis des chats. Même si c'est vrai, d'ailleurs la Ligue de protection des oiseaux le reconnaît, les chats attaquent de nombreux animaux sauvages. Mais l'idée de les piéger n'est pas passée du tout. Il avait décidément raison de pas le sentir. Réaction immédiate des défenseurs des animaux, tollé sur les réseaux sociaux et une pétition adressée à Emmanuel Macron pour interdire le piégeage des chats, qui a déjà recueilli à ce jour plus de 70 000 signatures.
Voilà, ne piégeons pas les chats. Merci pour ce sacré. Très loser, il m'a griffé. Alors, on a un cadeau pour vous. C'est l'heure de jouer, 8h moins le quart. On est à l'heure.
On est parfait. Alors, en fait, pour gagner, d'abord, il faut donner le cadeau. Et le cadeau, ça fait 2 mois que vous mettez plus de chaussures parce que vous êtes confinés. Là, il va falloir en remettre. Donc, on vous offre 150€ de bon d'achat de chaussures chez spartou.com, où il y a quand même, tenez-vous bien, 694 000 modèles de chaussures différentes. Je savais même pas que c'était possible.
Non.
Bref, pour gagner ce bon d'achat, la question, une question cinéma.
Ah.
Céline vous disait tout à l'heure que Danny Boone était en train d'écrire un nouveau film. Mais que raconte ce film? Est-ce que c'est A, la vie d'un immeuble pendant le confinement? B, la vie d'un ch'ti qui part à Los Angeles? Ou c'est la vie d'un gars du sud qui est muté dans le nord? Alors au début il est triste, mais à la fin il est content. Bon, c'est marrant celui-là, j'ai l'impression que j'ai déjà vu. Vous avez la bonne réponse, 32-10, on tirera au sort parmi les gagnants et on passera un petit coup de fil au vainqueur en fin d'émission.
On défait le monde sur RTL.
Et c'est l'heure du billet retour. Vous savez, quand on revient sur une info qui a fait la une et qui, depuis, a un peu disparu des radars.
Et ce soir, direction Hong Kong, on le rappelle, territoire chinois jouissant d'une certaine autonomie. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, une partie de la population se soulevait contre le gouvernement soupçonné de vouloir accroître l'influence de Pékin. Commençait alors un ballet sans fin de manifestations.
C'est une véritable marée humaine qui envahit pacifiquement les rues de Hong Kong.
À Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester.
Un mouvement de protestation contre l'ingérence de Pékin.
Un mouvement de protestation de plus en plus violent avec des scènes de guérilla. Mais depuis quelques mois, on en parle beaucoup moins. Ça y est, Brice, c'est terminé, il n'y a plus de manifestations à Hong Kong.
Alors, il y a eu une pause avec les restrictions dues au coronavirus, mais ça y est, les manifestants sont de retour. Le 26 avril, dans un centre commercial, environ 300 manifestants se sont réunis pour demander la libération d'activistes pro-démocratie qui avaient été arrêtés quelques jours plus tôt. Et puis le 1er mai, il y a de très nombreux policiers qui ont investi les rues de Hong Kong parce que des appels à manifester avaient été lancés ce jour-là sur les réseaux sociaux. Finalement, rien ne s'est passé, mais les rumeurs, les petits rassemblements ont un peu alerté les autorités du fait que le mouvement de contestation n'est pas éteint et qu'ils ne demandent qu'à reprendre. Et puis dimanche dernier, donc le 10 mai, jour de la fête des maires à Hong Kong, c'était deux jours après l'assouplissement des restrictions, eh bien les manifestants pro-démocratie ont à nouveau investi les centres commerciaux, les rues de Hong Kong, ont repris leurs pancartes et leurs slogans contre la Chine, qu'ils avaient un peu laissé depuis quelques mois. Mais ce n'est pas des rassemblements de masse comme ceux qu'on a pu observer l'année dernière. Mais quand même, dans la soirée, dans la nuit, il y a eu pas mal de tensions avec les forces de l'ordre, près de 250 arrestations. Officiellement, les autorités invoquent le non-respect des règles sanitaires du coronavirus, puisqu'il y a notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 8 personnes.
Et alors c'est quoi ? C'est le signe que les autorités craignent le retour des scènes de guérilla auxquelles on avait assisté l'an dernier ?
Oui, quand on voit les images des affrontements et des arrestations, on comprend bien que le non-respect des règles sanitaires n'est pas le seul motif. Cela s'explique surtout par le fait que les autorités, ils ont peur du retour de la situation chaotique d'avant la pandémie. Surtout que les élections législatives approchent, elles se tiendront dans 4 mois en septembre à Hong Kong. Et ça renforce la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle, de ne pas laisser la ville redevenir un champ de bataille. Quitte à user aussi un peu plus de la force, à accentuer un peu la pression, voire la répression sur les manifestants. Ce qui rend aussi la police de plus en plus impopulaire aux yeux du grand public.
Oui, mais écoutez, le début du mouvement en juin 2019, si je me souviens bien, c'était pour demander un retrait de texte de loi, un texte qui a été retiré. Alors aujourd'hui, c'est quoi la revendication ?
Alors, entre-temps, il y a eu aussi la demande du départ de la chef de l'exécutif, Carrie Lam, qui est aux ordres de Pékin, selon les manifestants, mais ça n'a pas marché. Puis, au fil des mois, des manifestations, le combat de la jeunesse, de cette jeunesse de Hong Kong, il est devenu plus global. C'est-à-dire, c'est plus simplement le rejet d'un texte ou d'une chef de gouvernement, mais c'est toute l'influence de Pékin dans les affaires quotidiennes de ce territoire particulier, en fait, qui est combattu. Mais aussi, il faut le rappeler que c'est le rejet d'une politique sociale, parce que cette jeunesse, elle est confrontée à l'inflation immobilière, à une vie de plus en plus difficile, de plus en plus précaire et de plus en plus cher dans une ville très chère et très dense. Voilà, c'est aussi ce caractère social qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, la chef de l'exécutif, elle est toujours là. Elle tente même de faire passer des lois pour renforcer l'influence de la Chine sur le territoire. Ça attise la colère. Elle est devenue très impopulaire, même dans son camp, puisqu'il y a des députés pro-Pékin qui lui reprochent de ne pas retrouver le chemin de la réconciliation. Alors les manifestants, eux, ils veulent maintenir la pression pour espérer que, aux législatives de septembre, eh bien, le bon bulletin soit mis dans l'urne par les citoyens de Hong Kong.
Bah merci, ça sert quand même d'avoir un grand reporter dans une émission.
Le reporter du service étranger.
Ah oui, oui, la classe internationale. Merci. Allez, on marque une pause et puis dans un instant, on va, pour la troisième fois ce soir, vous faire briller au dîner.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner. À 3, 4, voire 5 personnes, mais pas plus, hein.
Non, pas plus, avec de la distance. Troisième info pour briller, c'est à Brice maintenant de jouer.
Oui, Céline nous parlait tout à l'heure de cinéma et des drive-in.
Donc j'adore quand vous me citez, Brice.
Ouais, voilà, je vais m'arrêter là. C'est cinéma. D'ailleurs, je vais faire une précision. Je vais préciser un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. C'est cinéma donc en plein air dans lequel vous regardez le film dans votre voiture. Alors, Vincent, d'ailleurs, vous l'avez dit, on les associe aux États-Unis, ouais, aux années 50. Mmh. Mais ce concept, eh bien, il a existé en France. En 1967 a été inauguré le premier drive-in ciné. C'était sur la commune de La Farlette dans le Var. On est en bordure de National, à une dizaine de kilomètres de Toulon. Et à l'époque, écoutez ce que répondait Monsieur Lecoq, le propriétaire de ce drive-in ciné, quand on lui demandait sur l'ORTF comment lui était venue cette idée.
J'ai voyagé pas mal, plusieurs fois au Kenya et à Nairobi, j'ai eu l'occasion, maintes fois, d'aller dans un drive-in qui était installé là-bas. J'avais trouvé ça sensationnel. Et quand je suis rentré en France, un jour, je me suis posé la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas de drive-in en France ?
Alors c'est vrai qu'on aurait plutôt pu s'attendre à une influence américaine,
c'est
et ben non,
fou,
c'est une influence kenyane, mais qu'importe, les spectateurs à l'époque étaient emballés, écoutez.
Toute la famille est venue pour essayer le drive-in ciné là.
C'est la première fois.
On inaugure.
Je viens très souvent, très souvent.
Très souvent, donc vous êtes un amateur de drive-in ciné.
Ah oui, je suis emballé.
Vous n'êtes pas de la région, monsieur?
Je suis de la Haute-Savoie, effectivement.
Et ça n'existe pas là-bas?
Ça n'existe pas.
Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette formule?
C'est une formule sensationnelle, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps d'ailleurs.
C'est une nouveauté qui est bien agréable.
Une nouveauté bien agréable, voilà, 1967 dans le Var, souvenir du premier cinéma drive-in français qui est resté ouvert une dizaine d'années.
Mais moi j'aimerais bien me faire un drive-in quand même.
Vous en avez déjà fait ou pas?
Non, mais c'est vrai que j'en ai toujours rêvé. Je voudrais savoir si le son passe par l'autoradio ou si c'est...
Alors non, pas du tout, le d'accord. son, vous gardez
vous
votre voiture... Vous garez votre voiture à côté d'une petite butte en terre pour bien voir l'écran, et à côté de vous, comme pour un péage, il y a un boîtier que vous prenez et que vous accrochez à la portière, à la vitre de votre voiture, et le son, c'est avec cette petite enceinte que le son arrive dans votre véhicule.
Et quand je vous disais que ça servait d'avoir un grand reporter du service étranger dans une émission, ça se confirme.
Et qui adore le driving et qui voyage en van.
Et il y en a un qui voyage en moto dans Paris.
Il est où, Laurent?
Toujours, nous avons fait 300 mètres, nous arrivons sur les quais de Seine au niveau du pont Alexandre III. Donc d'ici quelques instants, nous allons pouvoir vous dire quelle est la situation sur place.
Quel teasing.
Oh mais c'est l'instant trop mignon.
Oh, c'est le moment de se réconcilier avec l'humanité, d'enterrer la hache de guerre.
Et avec Céline.
Ouais, et aussi, et de se dire que le monde est aussi capable du meilleur. Céline, vous avez la lourde tâche de faire briller l'espèce humaine. Bon courage.
Eh ben, je m'y attelle de suite. L'instant mignon est signé Paige cette semaine. Petite fille américaine qui n'en pouvait plus de ne pas pouvoir serrer ses grands-parents dans ses bras à cause de ce coronavirus et des gestes barrières qu'il faut respecter. Alors, elle a eu une idée. Avec un rideau de douche, des sacs plastiques, de la colle, elle a créé à l'entrée de la maison de ses grands-parents une sorte de station câlin. Bon, je vous l'avoue, c'est pas très radiophonique, donc je vais essayer de vous décrire tout ça. Le rideau de douche fait la cloison, mais il est troué avec des espaces. C'est là qu'interviennent les fameux sacs plastiques dans lesquels vous pouvez enfoncer vos bras pour serrer donc contre vous l'autre sans le toucher. Et a priori, ça fait du bien.
You get to hug me.
Oh my God! Oh my God!
Et là, vous l'entendez, ces retrouvailles. Parce
c'est
qu'un
les
câlin,
Américains, ça.
Même sous film plastique, moi, c'est quand même mieux que rien.
Et c'est une spécialiste qui vous le dit, hein, forcément. Merci. Il n'y a aucun sous-entendu dans ce que vous venez de nous dire.
Bah non.
Bah non, voilà. Un câlin, même sous plastique, c'est très bien.
Coucou, et moi, le prodomètre.
Moi, je trouve que votre chronique est extraordinaire.
Ah ben voilà, c'est le baromètre avec du Pascal Pro dedans, le prodomètre, le palmarès de vos appels au 3210. Et alors, comme Laurent est sur la moto RTL, là, je vous pose la question rituelle. À votre avis, quels sont les sujets qui ont le plus fait appeler cette semaine
les
au 3210?
Plages, non, la réouverture.
Ah, la réouverture des plages, on l'a. Tout à fait, ça a bien cartonné.
Les vacances, les dates de vacances.
Oui, ça aussi, ça a bien marché.
Oui.
Les frontières, le fait de ne pas pouvoir quitter la France.
Non, pas trop ça. Plus polémique, on a eu du plus polémique.
Les cafés, les bars, la réouverture.
Ça a fait appeler ça. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire écouter quelqu'un, parce que ça a pas mal fait appeler.
Les masques.
Les masques, non. La médaille pour les soignants.
Pour les soignants.
Ça a fait appeler.
Ouais.
Et voilà, vous avez tout bon. Et alors, sur les cafés, les restaurants, on a notamment eu Christophe, qui tient une crêperie dans le Calvados et qui a appelé le 3210.
Il faut qu'on ouvre maintenant, parce que la météo, elle est bonne maintenant. Le gros problème, c'est que la saison est très courte en Normandie.
Mais ce qui serait bien, c'est dommage qu'on puisse pas se télétransporter. Parce que là, vous voyez, il est 13h30,
ah ouais.
Hop, on mangerait une petite crêpe.
Puis attention, face à la mer. Hein.
Face à la mer.
Tout à fait.
Mais vous pouvez pas l'envoyer par la poste, évidemment, la crêpe, ça, c'est pas possible.
Eh non, ça se mange, c'est de l'authentique et ça ne se partage pas une crêpe.
Ouais, ils ont besoin qu'on ouvre les restaurateurs. Et une crêpe, ça se partage pas. Effectivement, il a raison.
Ah, il est incroyable, Pascal Pro, quand même.
Ouais,
il veut qu'on lui envoie des crêpes par la poste.
Ouais, bah, non, mais...
bon, on le salue d'amis, parce que je sais qu'il nous écoute.
Il écoute tous les vendredis, il adore l'émission, effectivement.
Ouais.
On fait un petit tour voir Laurent. T'es
allez, Laurent, vous êtes où alors?
Ouais, on vient d'arriver sur les quais de Seine au niveau du pont Alexandre III. Vous savez, la consommation d'alcool est notamment interdite, hein, le long du canal Saint-Martin et des voies sur berge. Par rapport aux pelouses des Invalides, il y a tout de suite beaucoup moins de monde, beaucoup moins de groupes installés. On le voit précisément, vous avez seulement des petits groupes de 2 personnes, 3 personnes avec la distanciation sociale qui est respectée. Donc beaucoup moins de monde sur les voies de berge par rapport à la pelouse des Invalides.
Eh ben merci Laurent pour ce petit tour et cette vision de Paris globale en moto. On a une gagnante également pour le jeu.
Ah, elle a gagné une paire de chaussures.
150€ pour s'acheter des chaussures. C'est pas mal.
On va en prendre plusieurs paires à ce prix-là.
C'est Aline. Bonsoir Aline.
3 paires de tongs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Aline.
Vous vous appelez de Saint-Blas?
Oui, c'est ça.
C'est où?
C'est Haute-Marne.
Ah, très bien, pas loin.
Et vous avez besoin d'une paire de chaussures?
Eh bien, tout à fait, ça tombe bien.
On a toujours besoin d'une bonne paire de chaussures. 150 euros pour vous, alors. Voilà, merci. Cadeau d'RTL.
Ces cadeaux, merci. Ça fait plaisir.
Super sympa, merci beaucoup, RTL.
À très vite, on vous embrasse. C'est fini pour nous ou pas?
Oui, déjà.
On n'a pas un gagnant, une gagnante,
ah,
des
idées. De l'info pour
briller. Voilà.
Ah oui, l'info pour briller.
Ben oui, l'info pour briller. C'est ce que je voulais dire. On a un grand jury derrière la vitre.
C'est pour moi. En tant qu'immense sportif, je cherchais comment me dégourdir et Céline m'a convaincu.
Voilà.
Oh non.
Céline, une fois de plus, a gagné et a mis tout le monde d'accord.
Avec la taille des plages. La plus grande plage de France, la Baule.
On vous remercie, on vous embrasse. Et puis, un gros big up.
Big up aux soignants et à tous ceux qui travaillent et qui nous ont permis de vivre ces deux mois de confinement le mieux possible.
Allez, bye bye et vous revenez vendredi pour nous défaire tout ça.
On défait le monde dans RTL.